Art Story, une histoire, une œuvre d'art. Bonjour à tous, c'est Julie Chaise-Martin et comme chaque semaine dans cette chronique, attardons-nous un instant sur l'histoire d'une œuvre ou d'un artiste. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter l'histoire d'un Claude Monet secret et inconnu à travers sa collection privée d'œuvres d'art. Et oui, vous ne le saviez pas, mais Claude Monet avait une âme de collectionneur. C'est ce que propose de nous faire découvrir pour la première fois le musée Marmottan-Monet, une collection constituée de chefs-d'œuvre impressionnistes et pré-impressionnistes, mais également de quelques surprises qu'on n'attendait pas, comme des œuvres des peintres de la vie parisienne, comme Constantin Guy, Jules Chéret ou encore Toulouse-Lautrec, que Monet appréciait particulièrement. Il paraît d'ailleurs qu'au sujet de Toulouse-Lautrec, Monet conservait chez lui quantité d'affiches sur les murs de sa maison. L'exposition du musée Marmottan-Monet est donc un véritable événement. Un fabuleux voyage dans la vie intime, les goûts et les amitiés du plus grand des impressionnistes. Qu'aimait-il, qu'avait-il au mur de sa chambre, à Giverny? Un Renoir, un Manet, un Pissarro? Grâce à cette exposition, nous pouvons désormais l'entrevoir, l'imaginer et le comprendre. Car il y a encore peu de temps, on ignorait absolument tout de cette collection privée. Et comme le rappelle la commissaire de l'exposition, l'histoire commence en fait au soir de l'année 1920. Il faut imaginer. Imaginer entrer un instant chez le peintre. Voilà ce qu'il s'est passé. Monet reçoit chez lui, à Giverny, quelques amis. En fait, il les emmène dans sa chambre à coucher, où sont accrochés de magnifiques tableaux. Quelques témoignages font référence à cet épisode, mais sans plus de détails. Et c'est pourtant à partir de cette faible indication que Marianne Mathieu, commissaire de l'exposition, décide de mener l'enquête, curieuse de savoir ce que le grand Monet pouvait bien conserver précieusement dans sa chambre. Son premier réflexe est de se tourner vers l'inventaire après décès du peintre, qui liste toutes choses lui ayant appartenu, mais pas de chance, l'inventaire a été détruit par un bombardement anglais pendant la guerre. Marianne Mathieu se tourne alors vers les différents documents, livres de vente, catalogues, correspondances épistolaires, un vrai travail de fourmi pour tenter de retrouver les traces des œuvres de cette collection secrète. 4 ans d'un travail minutieux, digne d'une enquête policière. Pari réussi. Aujourd'hui, dans l'exposition, vous pouvez admirer plus d'une centaine d'œuvres venues des 4 coins du monde, prêtées par les plus grands musées et collectionneurs privés. La chronologie de cette histoire inédite parle d'abord d'un Monet sans le sou, puis d'un Monet qui progressivement connaît le succès et va bientôt acheter ses contemporains en salle des ventes. De la première période date par exemple cette caricature de Charles Lullier qui est aussi le plus ancien portrait connu du peintre. Un autre tableau de Gilbert-Alexandre de Séverac montre Claude Monet jeune, encore imberbe, une image très rare de l'artiste. Ces 2 œuvres constituent en fait des dons de la part de ses amis artistes, car lorsque Monet arrive à Paris en 1859, il n'a pas d'argent, vit une vie de bohème, mais se fait un solide réseau. Au premier rang desquels Manet et Renoir, qui viennent rendre visite au peintre et à sa femme Camille, dans la maison qu'il habite désormais à Argenteuil. Vous les rencontrerez dans l'exposition à travers leurs tableaux, qui représentent des portraits de la famille Monet et des scènes de plein air. Renoir sera le plus assidu et le plus prolifique dans cet exercice. Ainsi, ce sont des tableaux d'amitié qui entrent chez Monet, et il en gardera certains précieusement jusqu'à sa mort. Puis le temps passe, le réseau s'étoffe et s'ajoutent bientôt les échanges. Avec Gustave Caillebotte, Berthe Morisot et Camille Pissarro, 3 de ses plus chers amis. Monet réalisera un grand panneau figuratif pour orner la résidence de Berthe Morisot à Paris. Et en échange, il se contentera d'un tableau de son ami en guise de paiement. De la même manière pour Camille Pissarro, auquel Monet avance de l'argent pour acquérir une maison. À la place d'un remboursement pur et simple, Monet souhaite que Pissarro lui donne le tableau intitulé « Paysanne plantant des rames », une œuvre très importante qui avait fait les beaux jours d'une exposition chez le marchand Durand-Ruel. Mais l'anecdote raconte aussi que Pissarro venait d'en faire cadeau à sa femme Julie, qui ne fut donc pas très heureuse que l'œuvre lui échappe finalement. Les anecdotes sont nombreuses et l'on n'en finirait pas de les compter. Un peu plus loin dans l'exposition, l'histoire se poursuit avec trois rodins, un bronze et deux plâtres. En échange de l'un d'eux, on sait que Monet donna au sculpteur une de ses 39 vues de Belle-Île-en-Mer, une peinture conservée aujourd'hui au musée Rodin de Paris. Mais là où l'histoire de l'art devient plus croustillante, c'est lorsque des chefs-d'œuvre sont redécouverts sur le tard. Ainsi, un des deux plâtres de Rodin figurant deux bacchantes s'enlaçant vient tout juste d'être déniché par la commissaire de l'exposition dans une collection particulière française. C'est la découverte de l'exposition, s'exclame-t-elle enthousiaste. Rodin l'a signée au grand maître C. Monet, son ami Rodin. Voilà bien la preuve d'un cadeau du maître de la sculpture au maître de la peinture. La collection privée de Monet se dévoile et voilà que l'on arrive à la phase des grandes acquisitions. Car à partir des années 1890, Monet est un artiste reconnu et a enfin de l'argent. Fini les dons et les échanges. À partir de cette date, il acquiert des toiles en salle de vente, jamais en son nom, en passant par un courtier. Souvent par le biais des grands marchands de l'époque, Paul Durand-Ruel, Ambroise Vollard ou Georges Petit. Il achète alors ses premières amours, les précurseurs de l'impressionnisme, Corot, Jonquing et bien sûr Eugène Boudin qui avait été son maître au Havre, ce qui ne l'empêche pas d'être fidèle à ses contemporains. De sublimes baigneuses de Renoir en témoignent, l'œuvre la plus importante et la plus fascinante est sans aucun doute le grand nègre Scipion de Cézanne, œuvre de jeunesse d'un artiste encore méconnu en 1895, mais que Monet admire et souhaite soutenir. Il l'acquiert 400 francs, une broutille à l'époque. Ça coûtait en effet beaucoup moins cher qu'un Corot, un Boudin ou un Renoir, pour lesquels il doit débourser plusieurs milliers d'euros. Autre chef-d'œuvre du parcours, La jeune fille au bain de Renoir, un tableau dont on disait aux alentours de 1900 qu'il était éblouissant de couleurs d'une merveilleuse époque de Renoir. Évidemment, personne n'en doute, Monet avait très bon goût. Et il faut aujourd'hui imaginer que tous ces tableaux furent accrochés pour de longs ou de plus courts moments au mur de sa maison de Giverny, aux côtés des estampes japonaises qu'il collectionnait aussi en grand nombre. Une collection intime et secrète que l'on découvre comme on lève un rideau pour entrevoir un trésor. On touche aussi plus près à la vie quotidienne du peintre, aux membres de sa famille, pour qui il acheta aussi beaucoup d'œuvres d'art. Il reste probablement encore plusieurs choses à apprendre de cet aspect méconnu du grand peintre. L'enquête a bien débuté et elle se poursuivra. Il ne nous reste plus qu'à suivre ce conseil du peintre qui disait « Ma collection est pour moi seule et pour quelques amis. Venez la voir ». Eh bien, allons la voir. Elle est au musée Marmottan-Monet à Paris, encore jusqu'au 14 janvier. C'était la collection intime de Claude Monet dans Art Story, une histoire, une œuvre d'art.